Écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Il est 13h et 13h, c'est l'heure d'Esther, voilà.
Oui, le 13, on aime le 13.
Alors, ah oui, oh, d'accord. Mais enfin, alors, voilà, revue de presse et on a beaucoup de choses à dire à l'étranger aujourd'hui.
Oui, on parle d'abord de la France, donc je vais commencer. 2 milliards d'euros pour accompagner et accueillir les personnes handicapées en France.
2 milliards d'euros, là, ça fait 3 milliards chez nous. Hein?
Oui, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, on peut se réjouir. Hein? La ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq, si je le dis bien, a attribué un budget au plan de 50 000 solutions. Donc, ça, c'est vraiment un nouveau plan qu'on appelle 50 000 solutions, qui vise à accueillir et accompagner les personnes en situation d'handicap. Donc, aujourd'hui, on compte 10 000 jeunes adultes dans les instituts médicaux éducatifs, qu'on appelle les IME, réservés aux enfants et adolescents, car ils n'ont pas de place dans les établissements pour adultes. Donc, en fait, ces lieux de vie permettent d'accompagner les personnes handicapées, notamment dans des situations les plus complexes. C'est pourquoi nous allons proposer plusieurs solutions comme l'accompagnement à domicile. Ça en fait partie.
Parce que ça fait déjà quelques semaines qu'on parle de la volonté, si on peut dire, hein, du président Macron de faire de son septennat, mais c'est un quinquennat maintenant, de faire de son quinquennat, une gestion ou une administration où le handicap sera primé, sera important. Et c'est remarquable de voir là, 2 milliards d'euros sur 5 ans.
Oui, de 2024 à 2030, comme vous dites. En fait, c'est presque 6 ans finalement.
Mais c'est quand même beaucoup. Il y a une volonté, presque semaine après semaine, ça revient dans le discours.
Bien, d'ailleurs, en fait, le budget il est consacré, comme on disait tout à l'heure, à la mise en place du plan des 30 000 solutions.
Mais ça 50 000, ne soyons pas modestes.
Par Emmanuel Macron en avril, vous rappelez, il en a déjà parlé, donc à la Conférence nationale du handicap. Donc, tout ça est finalement la mise en œuvre de ses promesses, rien de moins. C'est quand même, on peut s'en réjouir.
Oui, tout à fait. Puis, c'est bien qu'il y ait cette reconnaissance-là. Ben, on espère que ça fasse tache d'huile. Hein,
oui, voilà.
Dans d'autres pays, en Belgique aussi.
En Belgique, c'est la même chose. En fait, Bruxelles a son cadastre de l'offre de services et des besoins en matière d'handicap. Donc, ici, le mot cadastre est un petit peu utilisé d'une façon différente de ce qu'on a l'habitude
de
faire.
Oui, bien, chez nous, c'est savoir si la ligne d'Hydro-Québec est dans ma cour.
Voilà. Le cadastre, pour eux, en fait, c'est comme une photo qu'on vient de prendre de l'offre de services des besoins en matière d'handicap. On a fait une recherche, puis on a une étude qui a été réalisée par une équipe multidisciplinaire qui met en évidence la faible participation des femmes dans les dispositifs et la nécessité d'une reconnaissance symbolique de la société envers les personnes vivant avec des handicaps.
Quelqu'un parle de la place relative des femmes à titre de prestataire ou de bénéficiaire ou un peu des deux?
Je pense que c'est un peu des deux. En fait, cette étude-là, on révèle en premier qu'on manque de places et de structures spécifiques pour les personnes atteintes d'autisme et de grande dépendance, donc à Bruxelles. On a en fait, c'est la première fois que la volonté politique commune de la COCOF, qui elle est, si je me rappelle bien, en fait, c'est... Non, je ne m'en souviens pas, malheureusement.
On vous en tient pas rigueur, mais ce que je veux dire, donc, c'est qu'on voit là, quand même, il y a un début de volonté avant même de budgéter. Là.
Oui, voilà.
Je ne pense pas que la Belgique fasse à hauteur de 2 milliards, simplement pour une question de proportion par rapport à la France. Mais cela dit, ça commence par au moins dresser un état des lieux.
Oui, voilà. C'est qu'on a fait une photo des problèmes et des besoins. On a enfin fait une étude plus spécifique, plus claire, pour connaître ce dont on a besoin réellement. Donc, on part du bon pied, comme vous dites.
Oui, voilà. Puis, pied dans l'étrier. Hein? Oui, non seulement on part du bon pied, mais en plus, il est dans l'étrier.
Hein? Tout à fait. Puis, en fait, tous les organismes qui sont visés ici se sont unis pour faire cette étude-là. Donc, on a vraiment les informations. On va espérer la suite à courte échéance.
Ben oui, tout à fait. Maintenant, soyons plus ludiques.
Oui, toujours en France, on revient en fait. une tablette pour permettre aux personnes malvoyantes de suivre les matchs de foot.
Oh.
Donc, c'est très original. Là, c'est trois jeunes inventeurs de Toulouse qui ont mis au point une tablette qui permet aux personnes malvoyantes ou aveugles de suivre une rencontre sportive en direct grâce au toucher.
Oh.
Donc, le dispositif en cours d'élaboration devrait prochainement révolutionner l'accessibilité du spectacle sportif aux personnes touchées par l'handicap.
On parle d'une start-up, évidemment, qui s'appelle
voilà.
Touch2See. Hein, voilà, Touch2See, comme le chiffre tout.
C'est très drôle, c'est ça. La tablette vibre. Hein. Sur l'appareil, tout y passe. Donc, si vous connaissez le langage du sport, le tacle, la passe, le tir, la tablette vibre pour traduire l'intensité du jeu. Un match étant essentiellement visuel, naturellement, c'est beaucoup plus pertinent de le rendre accessible par le toucher. Donc, l'objectif final, c'est d'apporter de l'émotion.
Oui, puis s'ils font ça avec du foot, ils pourraient faire ça sur une tablette pour du hockey aussi.
Ben voilà.
Hein? C'est une surface de jeu.
Tout à fait, ils veulent étendre la chose. Donc, ça, c'est le premier objectif. Les tablettes seraient en fait offertes dans tous les stades de France, on l'espère.
Ah, OK. Alors, la personne est dans les estrades, entend la foule, sent l'émotion. Puis là, en plus, il y a tout cet environnement plein énergisant en temps réel, parce qu'on y est, et en même temps, on peut savoir qu'est-ce qui se passe sur la surface de jeu.
Je crois, par contre, qu'ils veulent l'étendre aux deux niveaux. Donc, quand on est dans le stade
ou
et à la maison.
Ou à la télé, oui. On peut imaginer la même chose pour le tennis.
Oui, hein, c'est ça.
Là, on peut facilement imaginer... La balle, les rebonds, le filet, ainsi de suite. Alors, ça a beaucoup d'avenir parce que c'est chic écouter la description à la radio, mais c'est pas la même chose que de vivre l'émotion dans le stade.
Non,
c'est sûr. Ah, c'est
bien. Avec les vibrations, on a une bonne idée de ce qui se passe.
Oui.
Éventuellement, on va pouvoir brancher un casque pour bénéficier de l'audio description.
Ça peut être intéressant. Ce serait autre chose.
Donc, en fait, on s'appuie sur la 5G, là, les trois chercheurs, les trois Toulousains. Ils viennent
Toulousains. Alors, une start-up toulousaine, Touch2See. Voilà. Mais on n'est pas en reste non plus du côté de l'automobile.
Non, voilà. Ça, c'est une autre belle innovation de Citroën, en fait, qui a présenté au salon de automatique à Paris, toujours en France. Une nouvelle voiture qui s'appelle Ami for All.
Ah oui, Ami for All ou enfin, on ne sait
Ami,
pas.
Ami, peut-être, oui.
Ami for All.
Moi, je le lisais Ami, mais effectivement,
on ne sait plus exactement comment le prononcer. Bon, ce qui compte, c'est que voilà, il s'agit d'une automobile qui offre des solutions.
Absolument génial. En fait, c'est que, bon, il faut savoir premièrement qu'en France, vous le savez sûrement, François, leur façon d'obtenir leur permis de conduire est différente de la nôtre.
Ah oui?
Donc, il y a deux niveaux de voitures. Il y a des voitures dont on n'a pas besoin de permis de conduire.
Ah non? Oh là là! Ça apparaît sur les routes parfois ici aussi.
C'est vrai.
Hein? Bon.
C'est comme des voiturettes à un seul banc. Donc, les gens peuvent commencer à les conduire à l'âge de 14 ans.
OK.
Donc, c'est ce genre de voiturette-là, en fait, qui s'appelle Ami for All.
Ça ressemble un peu au triporteur ou au quadriporteur qu'on voit ici, des véhicules électriques.
Mais c'est comme une petite voiture. Vous savez, les voitures à un seul banc qu'on voit parfois sur nos routes, c'est celle-là.
Okay.
C'est exactement la même chose, mais en France, ils ont besoin de faire une formation pour les conduire, mais ils n'ont pas besoin de permis de conduire. Écoutez, c'est une autre façon de faire.
D'accord.
C'est cette voiture-là...
Comme je dis, j'ai l'impression que ça déjà court ici, parce que la façon dont les gens se comportent...
Tout à fait. Mais c'est cette voiture-là qui va être bien aménagée en conséquence, parce qu'on peut y mettre vraiment un fauteuil roulant.
Okay.
Puis la personne qui est complètement autonome pour ouvrir les portes parce qu'ils s'ouvrent d'un angle différent.
D'accord.
Donc, ils sont beaucoup plus faciles pour entrer dans la voiture, pour se glisser à l'intérieur à partir du fauteuil roulant et ensuite de plier le fauteuil roulant pour le mettre sur le siège du passager avec une ceinture spéciale. C'est vraiment une innovation, qui est fabuleuse.
On parle d'un volant équipé d'une boule pour une meilleure préhension.
Voilà.
Donc, c'est des solutions ingénieuses, là, parce que parfois, on voit des gens qui vont avoir une petite wagonnette qui sont capables d'y ranger leur fauteuil. Mais quand même, la transition jusqu'au siège du conducteur, là, c'est pas toujours évident.
Donc, c'est ça, il incorpore des innovations techniques telles que l'augmentation de l'angle d'ouverture de la porte, comme je disais tout à l'heure, des équipements facilitant le transfert du fauteuil au siège du passager, une gestion manuelle de l'accélération et du freinage, un volant équipé d'une boule,
oui,
comme vous
c'est
disiez,
ça, exact.
Et une solution ingénieuse pour le transport du fauteuil roulant. En fait, si jamais vous avez un passager qui s'assit à côté, ben, il y a une autre façon de
configurer.
Ouais, voilà, l'auto. De déposer en fait le fauteuil roulant à l'arrière.
OK.
Donc ça va être avec la demande. Donc dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui désirent ce genre de
véhicule,
ils vont pouvoir le produire.
Wow.
Parce que bon, en fait, c'est une belle innovation.
On n'arrête pas le progrès.
Ouais.
En Suisse non plus.
En Suisse, des chercheurs genevois créent un livre tactile et sonore pour les aveugles, en fait, pour les personnes vivant avec un handicap visuel. Donc, c'est le projet présenté par des chercheurs genevois et français. Il existe déjà des livres, en fait, tactiles spécialisés sur le marché, mais ceux-ci proposent des illusions visuelles, alors que le livre créé par l'équipe de chercheurs se base, lui, sur le toucher et l'audition. En fait, ceux qui existent déjà... on les crée pour des gens qui ont déjà, qui voyaient, en fait, on
les crée. Souvent, ça peut être pour les enfants, entre autres, des livres qui s'ouvrent, un peu comme des accordéons,
voilà,
avec des petits modèles en 3D, mais c'est pas très interactif, là.
Non, c'est ça. En fait, ici, il va y avoir, l'objectif, en fait, de commercialisation, c'est... en fait, les chercheurs planchent maintenant sur un nouveau prototype encore plus immersif avec des ambiances sonores pour déclencher avec le toucher. Donc, dès que la personne touche la tablette, le livre, en fait...
La couverture,
voilà. Il y a des choses qui bougent, donc on...
Des stimuli.
Oui, voilà merci
mot,
de
voilà
le dire.
Voilà le mot est stimulé, des stimuli... audio, ça ressemble un peu à la tablette pour le foot, hein?
Exactement.
En fait, ça met en jeu des sens autres que la vue. Ça revient encore à ça.
En fait, c'est des textures puis des reliefs qui sont adaptés pour les personnes vivant avec un handicap visuel qui vont carrément se manifester dès qu'on touche la tablette. Donc, on pose une question, c'est des jeux, hein, finalement. Oui. L'enfant, on pose une question, on demande, bon, tu dois aller à tel endroit, ta, ta, ta. Et dès qu'il touche, il va sentir qu'il y a des escaliers, il va sentir qu'il doit aller par là, c'est très intéressant.
Oh. Bravo.
Très amusant, très
Bravo.
Amusant.
Bravo, ben oui. Et c'est pas fini en France.
Non. En fait, une maison de la déficience visuelle à Orléans pour apprendre à gérer sa vie au quotidien. Donc, le président de la Fédération nationale des aveugles et amblyopes, de France est l'invité de France Bleu Orléans pour évoquer cette première en France. La création à Orléans d'une maison à la déficience visuelle, un lieu pour soutenir les personnes dans leur vie quotidienne. Donc, c'est un lieu unique en France qui répond à une attente des personnes atteintes d'handicap visuel. On y trouve des conseils pour les démarches administratives, on peut se faire conseiller des outils numériques. On peut ici y jouer à des jeux de société, emprunter des loupes, commencer à apprendre le braille. En fait, tout y est. C'est comme une maison qui va regrouper tous les besoins qu'on peut avoir si on vit avec un handicap visuel à tous les niveaux.
C'est pas maison dans le sens qu'on y habite, mais c'est maison plutôt dans le sens d'un centre.
Un lieu.
Un lieu qui, on appelle ça souvent, on peut dire la maison des jeunes ou la maison des aînés. Mais là, dans ce cas-ci, il s'agit donc d'un lieu qui centralise tous les services à la fois... juridique ou administratif, mais aussi des questions ludiques, ainsi de suite. Puis, en fait, il se réjouit sur Orléans parce que non seulement ben, c'est une première à Paris, mais en plus, la maison Orléans pour spécialiser est tout juste à côté de la station de train Braille.
Voilà.
Ah là là.
On indique le lieu assez facilement. Voilà. Hein.
Bon, mais c'est bien ça. Mais donc, c'est une première en France. On pourrait penser que ça va se répandre. Ou en fait, d'une certaine manière, on aurait pu penser que ça existait déjà.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, nous, ici, ce qu'on a, c'est des regroupements. Hein? On est bien équipés de regroupements qui font, en fait, lieu de ce genre de besoins. On répond bien à ces besoins-là, mais eux vont avoir un lieu physique. Donc, on a des questions, on peut s'y rendre, il y aura toujours des gens pour aider, tout ça.
C'est vraiment
un soutien autant psychologique. On parle de cours de braille même, en passant par des suivis administratifs, en fait, tout y est.
D'accord. Et ça, donc, c'est l'œuvre de la Fédération nationale des aveugles et amblyopes de France. Bravo. On espère pour vous que ça va faire tache d'huile.
Tout à fait.
En parlant de tache d'huile, parfois, il y a de l'huile qui va atteindre les rives, mais ce n'est pas de celle-là dont on parle.
Non.
On parle de rives plus agréables. Hein?
Oui, on parle de plages, en fait, en Grèce.
Ah, des plages grecques.
Oui. Non, justement, hein, magnifique. Un nouveau dispositif facilite l'accès à la plage des personnes en situation d'handicap. C'est fabuleux. Donc, les personnes à mobilité réduite peuvent désormais accéder à la mer aisément grâce à un système de rampe télécommandée qui est tout à fait autonome. Donc, les personnes s'assoient sur un siège dès qu'ils sortent de leur voiture et avec cette rampe-là, ils l'actionnent eux-mêmes, qui les dirige carrément tout près de la plage. Et en fait, la rampe se rend jusqu'à l'eau.
Jusqu'à l'eau, voilà. Bien, évidemment, j'espère qu'au moment des marées, il y a un dispositif de rétraction.
Ah, probablement. Là, vous voyez, ça ne donne pas cette information-là dans la nouvelle que j'ai trouvée. Néanmoins, les personnes vont pouvoir directement sortir du siège pour aller nager dans la mer.
Oh!
Donc, pour le moment, on va commencer à établir ça dans quelques plages, mais éventuellement, on veut vraiment l'avoir partout.
Bien, bravo.
C'est fabuleux. Ouais,
ça, c'est, donc, ça, c'est en Grèce, ça va faciliter le tourisme aussi.
Hein? Oui, c'est ça. C'est une belle grande rampe télécommandée qui relie la plage à l'eau.
Bravo.
Fabuleux.
Ah. Ouais. Ben, on va revenir chez nous bientôt.
Thank you.
deux, trois go. Ah, ça, c'est la rencontre du jazz et de la samba. C'était une belle pièce. Notre collaborateur et technicien précieux, Mathieu Tessier, nous fait le plaisir de reprendre des pièces que nous avons appréciées tout au long de l'année. Bravo. Au Canada, ben, la semaine dernière, c'était la Semaine québécoise des personnes handicapées. Puis, il y a eu des initiatives qui ont été annoncées.
Donc, une qu'on apprécie vraiment beaucoup, en particulier à Saint-Jérôme, un deuxième protocole pour le transport adapté des femmes handicapées victimes de violences conjugales à Saint-Jérôme. Donc, d'abord, il faut savoir que les femmes qui vivent avec un handicap ont malheureusement un plus haut taux de
c'est deux ou trois fois plus élevé. Tout à fait. C'est un sujet dont on a parlé à plusieurs reprises ici à l'antenne de Sans détour. Exact.
Donc, dans le cadre de la 27e Semaine québécoise des personnes handicapées, le regroupement des usagers du transport adapté et collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord, donc à Saint-Jérôme, dans la région, le MITAN et EXO sont fiers d'annoncer la mise en place d'un deuxième service pour venir en aide aux femmes vivant avec des limitations fonctionnelles qui se trouvent en situation de violence conjugale. En fait, ces femmes peuvent bénéficier d'un transport adapté confidentiel et sans frais, donc gratuit, entre leur domicile situé à l'intérieur du territoire qui est desservi et la maison d'hébergement, le MITAN, à Sainte-Thérèse.
D'accord.
Les intervenantes du MITAN peuvent dorénavant réserver un véhicule en priorité pour permettre à une femme en situation d'handicap ou vivant avec une limitation fonctionnelle de quitter son domicile de façon confidentielle pour se rendre à la maison d'hébergement de manière planifiée. Donc, elle et naturellement sa famille, ça couvre toute la petite famille qui doivent partir. Donc, les femmes ayant besoin de quitter rapidement pourront le faire. Et ce, malgré la présence d'une limitation fonctionnelle. C'est vraiment fabuleux. C'est un point important pour l'accessibilité aux services et d'aide à l'hébergement. Oui. Donc, en mettant de l'avant la problématique de la violence envers les femmes handicapées qui sont deux fois plus victimes de violences conjugales, comme je disais tout à l'heure, que celles sans limitation, on cherche à contribuer à lever le voile sur ce qu'elles vivent. Ce qui est quand même très important.
Oui, oui, tout à fait. Bien, on salue cette initiative-là parce que c'est... La problématique, c'est une chaîne atroce, là. Hein? Les prédateurs, les personnes qui profitent de la faiblesse ou de la vulnérabilité d'autrui. Évidemment, les femmes en situation d'handicap sont en première ligne, malheureusement. Et après ça, il s'agit de quitter le lieu. Là encore, accès à l'information, accès à du transport, se retrouver en hébergement... Que la maison d'hébergement elle-même soit accessible, ça, c'est une autre problématique.
Tout ça, oui.
Oui, parce que ce n'est pas toutes les maisons d'hébergement qui sont accessibles. Et d'abord, elles sont souvent remplies parce qu'en soi, dans la société, on manque de place pour gérer les situations, prendre soin des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Alors, mais c'est un pas dans la bonne direction et on espère que ça va se répéter dans d'autres régions du Québec.
Régions. Puis d'ailleurs, voilà. On espère contribuer à briser le cycle de la violence dont elles sont victimes. Donc, c'est ce que Mme Suzanne Chénier, coordonnatrice du regroupement des usagers du transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord, soulignait.
Alors, c'est un pas important pour l'accessibilité de nos services d'aide et d'hébergement, déclare Maryse Lachaine, directrice générale de la maison d'hébergement, le MITAN. Bravo.
Donc, on revient à Montréal. Monsieur Marco Bonizzato.
Le docteur Marco.
Oui, voilà.
Bonizzato. Oui.
Soulignons-le, vient de remporter le prix Turnbull Tator 2022. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, c'est que Monsieur Bonizzato, professeur associé en neurosciences de la Faculté de médecine, reçoit le prix pour sa contribution à la recherche sur les lésions médulaires. Les lésions médulaires, en fait, c'est les lésions de la moelle épinière et du cerveau. Donc, c'est un prix prestigieux qui récompense les publications exceptionnelles de chercheurs et de chercheuses canadiennes dans le domaine, en fait, de ces lésions-là. Le docteur, aussi professeur adjoint en génie électrique à la Polytechnique de Montréal, est récompensé pour sa publication dans la revue scientifique Translationale Médecine intitulée, bon, là je me lance.
Mais allez-y, un, deux, trois.
An Intracortical Neuro... Écoutez, je pense que je vais laisser tomber.
Neuroprosthesis. Alors, on parle de neuroprothèses à l'intérieur du cortex qui permettent en fait de faire un lien entre le cerveau et les muscles moteurs qui est pour la marche. Alors, il s'agit réellement d'une possibilité de remettre en circuit, si je peux dire, les muscles qui avaient été coupés.
Mais d'ailleurs, c'est ça qui est fantastique. L'objectif de la plateforme, en fait, qu'il a créée, lui, pour lequel, en fait, on vient de lui donner une subvention, c'est de développer des traitements axés sur le cerveau et ses commandements motrices.
Exact.
Pour favoriser un rétablissement efficace à la suite de lésions médulaires incomplètes.
Tout à fait. Et nous en parlions d'ailleurs il y a quelques semaines avec notre chroniqueur scientifique Philippe Ducharme.
Ah?
Oui, tout à fait. Alors, tant mieux si ces travaux ont été primés. Ça va donner un coup de pouce pour continuer dans ce sens-là.
Tout à fait. Puis il a été sélectionné en fait en raison de la nouveauté et de l'originalité de sa publication, de l'impact de sa recherche et de ses conclusions. De la qualité de sa recherche, ainsi que de la qualité et de la faisabilité de ses travaux et de l'environnement de recherche de ses stagiaires. Donc, c'est
bravo.
Fabuleux. Donc, 50 000 $ pour aller encore
50 000,
plus loin.
Ça, c'est pas ça qui va... c'est un peu dans la bonne direction. Voilà,
continuer la recherche. Hein?
Parfait. Rapidement, on parle de plein air en Estrie.
Oui, en Estrie, puis en fait, partout au Québec, de nouvelles subventions sont venues et maintenant... Les sites de plein air s'ouvrent de plus en plus aux personnes à mobilité réduite. Dans la région estrienne et ailleurs au Québec, plusieurs organisations font l'achat d'équipements spécialisés ou encore adaptent leur site afin d'accueillir les visiteurs ayant des limitations. En fait, vous connaissez peut-être Kéroul.
Ah, ben si je connais Kéroul, madame! Nous aurons le plaisir d'avoir la semaine prochaine avec nous Isabelle Ducharme.
Hein? Ah oui,
et voilà, qui est la présidente de Kéroul, qui va nous dévoiler tout son programme pour l'été. Ça a été la publication récemment du dernier répertoire de Kéroul de tous les sites accessibles pour le plein air au Québec. Et nous en parlerons à nouveau la semaine prochaine ici à Sans Détour. Ben, merci beaucoup, Esther.
Merci.
Malheureusement, on ne peut pas tout dire dans la même demi-heure. Merci à Claire Guérin à la recherche. Mathieu Tessier, là, vraiment, c'est merveilleux. Je peux pas en dire davantage. On a eu un quiz musical toute la journée. À tout le monde, on souhaite une belle semaine. À lundi prochain. Merci.